Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Israël-Iran, un conflit perdant-perdant et europessimisme, un mal français. Nos débatteurs ce dimanche, Corinne Lepage, bonjour avocate, ancienne ministre de l'Environnement et ancienne eurodéputée, Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Historien, directeur de l'IFRI, l'accélération de l'histoire, c'est votre dernier ouvrage chez Talendier. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au journal Le Monde, vous avez publié chez Stock en fin d'année dernière Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Et puis Brice Couturier, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette.
Collaborateur à l'hebdomadaire Le Point, l'entreprise face aux revendications identitaires, c'est votre dernier livre au PUF et ça a été publié en 2023. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les résultats du dernier Eurobaromètre, une vaste enquête menée auprès des citoyens de l'Union européenne à quelques semaines des élections de début juin, enquête qui fait apparaître la France en tête d'un classement, celui du pays le plus pessimiste des 27 quant à l'avenir de l'Europe. Alors pourquoi un tel europessimisme? Nous en débattrons. Et tout de suite, notre premier sujet.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Ces derniers jours ont été marqués par une dangereuse escalade en paroles et en actes. Un mauvais calcul, une mauvaise communication, une erreur pourrait conduire à l'impensable. Un conflit régional généralisé qui serait dévastateur pour toutes les parties impliquées et pour le reste du monde. Ce moment de danger maximal doit être l'occasion de faire preuve de la retenue maximale.
En une du magazine allemand Der Spiegel cette semaine, deux hommes, deux dirigeants que tout oppose, l'ayatollah Ali Khamenei et Benjamin Netanyahou, le guide suprême de la révolution iranienne et le premier ministre israélien, incrusté derrière leur visage une carte de l'Iran et cette question en gros caractère. Est-ce la prochaine grande guerre? Depuis une semaine, la question domine l'actualité internationale. Téhéran et Tel Aviv, les ennemis jurés qui jusque-là se contentaient d'exprimer leur rivalité de manière indirecte, ont-ils franchi un pas décisif vers un conflit armé au risque de déstabiliser tout le Moyen-Orient? Le 13 avril, la République islamique lançait une attaque sans précédent contre Israël. Des drones et des missiles en guise de représailles à une autre attaque, celle contre son consulat à Damas en Syrie le 1er avril, au cours de laquelle 7 membres des gardiens de la Révolution avaient été tués. Vendredi matin, des explosions sont signalées dans le centre de l'Iran. Selon toute vraisemblance, une riposte de l'armée israélienne. L'État hébreu a pourtant pris soin de ne pas revendiquer cette attaque. De son côté, le régime iranien cherche à en minimiser l'impact, comme si de part et d'autre, il y avait la volonté de ne pas aller trop loin, si tant est que la limite n'ait pas déjà été franchie. C'est en tout cas ce que réclament à corps et à cri l'ONU, le G7, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays arabes ou encore la Turquie. Des appels à faire preuve de retenue de part et d'autre dans un moment de danger maximal pour prendre les termes, comme on l'a entendu il y a quelques secondes, d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Bref, à ce stade, il semble que ni l'Iran, ni Israël ne soient enclins à franchir une nouvelle étape dans le conflit qui les oppose, car personne ne sortirait gagnant d'une guerre dans la région. Mais est-ce que ce sera suffisant pour qu'elle n'ait pas lieu? Et pour commencer, Thomas Gomard, est-ce qu'on peut dire qu'une semaine après l'attaque de l'Iran contre Israël, le monde respire un peu mieux?
J'en suis pas sûr. Je pense que vous avez rappelé la chronologie récente. On va refaire toute la chronologie, mais il y a quand même une cassure qui est importante à rappeler, c'est le 7 octobre et l'attitude de l'Iran derrière l'attaque terroriste du Hamas. En fait, depuis le 7 octobre, l'Iran était dans une position tirer un certain nombre de bénéfices de l'attaque du Hamas, notamment par l'intermédiaire d'autres groupes comme le Hezbollah ou comme les Houthis au Yémen, et sortait d'une certaine manière renforcé. On a eu l'occasion d'en discuter à ce micro. L'attaque du 13 et du 14 avril est effectivement une rupture parce que c'est la première fois qu'on se replace dans quelque chose d'interétatique et d'une attaque directe venant d'Iran sur le territoire d'Israël. Elle avait été annoncée, donc elle a aussi permis à Israël et à ses soutiens de s'organiser. Et la dernière réponse d'Israël, effectivement, donne l'impression de vouloir être calibré et de ne pas, enfin, de montrer qu'Israël, d'une certaine manière, garde le contrôle de l'escalade. C'est-à-dire que le message, c'est que nous aurions pu faire plus, et nous ne le faisons pas pour l'instant. Alors, à mon avis, ça pose deux grandes questions, parce qu'il y a, à mon sens, un double arrière-plan. Le premier, c'est l'arrière-plan nucléaire. La doctrine d'Israël est très ambiguë, très peu connue, en fait, par rapport aux autres puissances nucléaires. Et par ailleurs, l'Iran est devenu une puissance du seuil. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de déclarations qui montrent que le programme a avancé. Alors, ensuite, il y a toute la question de la transformation de la matière fissile et sa militarisation, ce qui demande beaucoup d'efforts supplémentaires. Mais il y a aussi un message du seuil atteint en termes nucléaires par l'Iran. Et puis, le deuxième arrière-plan, moi, qui me frappe, c'est que la connexion entre les deux grands théâtres que nous avons, c'est-à-dire la guerre d'Ukraine et la situation au Moyen-Orient, se renforce, à mon avis, de manière visible avec un rapprochement entre l'Iran et la Russie de plus en plus manifeste, c'est-à-dire que la Russie est soutenue militairement par l'Iran en Ukraine avec les drones, que la Russie a modifié son positionnement par rapport au programme nucléaire iranien et aux négociations qui avaient eu lieu dans un cadre depuis 2003 en se rapprochant de Téhéran. Et il y a une zone de contact, à mon avis, sur laquelle il faut être extrêmement vigilant, c'est ce qui se passe au Caucase. Parce que la manière dont les deux théâtres peuvent se réunir un peu plus, dirais-je, c'est par le Caucase, avec à la fois la situation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Je note d'ailleurs que l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan a été rappelée, puisque, en fait, il y a un soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan et que l'Azerbaïdjan pourrait être aussi un des points d'entrée ultérieurs. On verra si Israël décidait d'accentuer sa pression sur l'Iran.
Donc, ce que vous nous dites, Thomas Gomard, c'est qu'il ne faudrait pas se réjouir, disons, trop vite d'une apparente baisse de tension avec les Israéliens et les Iraniens qui semblent aujourd'hui dire, bah voilà, finalement, on a l'impression qu'en tout cas qu'ils se contentent de leurs ripostes respectives avec la volonté de ne pas aller plus loin.
Bah ça n'est qu'une impression. Si on élargit la focale, moi je pense qu'on est dans une situation qui en réalité se dégrade de semaine en semaine. On n'est pas du tout dans une voie de plateau. Alors, ça donne l'impression parce qu'il y a eu cette réponse d'Israël calibrée. Mais en réalité, quand on élargit la focale, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se constituer entre Moscou et Téhéran. Il y a une attitude de la Chine qui est extrêmement importante aussi à suivre à distance. Et de l'autre côté, ce que l'attaque du 13 et du 14 avril, à mon avis, a provoqué, c'est là où il y avait une sorte de critique de plus en plus vive sur l'attitude d'Israël dans sa férocité, dans sa réponse à Gaza, un soutien à Israël qui est maintenant plus exprimé par des pays, notamment des pays comme la France ou le Royaume-Uni, ayant été agressé sur son territoire par l'Iran. Mais ça, à mon sens, à l'échelle plus large, ça polarise les positions et c'est très préoccupant.
Sylvie Kaufmann, vous partagez cette préoccupation ?
Oui, alors il y a effectivement deux plans, si on peut dire. Il y a le plan rapproché. Alors, en effet, quand vous citiez cet élément sonore tout à l'heure d'Antonio Guterres qui dit « Nous sommes, le Moyen-Orient est au bord du gouffre » et on a l'impression que les deux principaux acteurs, l'Iran et Israël, sont en effet arrivés au bord du gouffre, ont regardé et ont vu la profondeur du gouffre et se sont dit finalement c'est peut-être pas une si bonne idée de plonger. Donc il y a cette retenue dans l'immédiat qui est quand même un grand soulagement parce que c'est vrai que si c'est cette spirale avait continué, donc cette spirale qui en effet a commencé le 7 octobre mais qui pendant 6 mois a continué par proxy interposé donc avec les alliés de l'Iran dans la région, le Hezbollah, les autistes du Yémen, avec l'Israël qui Israël a quand même liquidé, je crois, 17 responsables iraniens en Syrie et au Liban en l'espace de 6 mois. Donc tout ça continue et, de toute façon. Et puis le 1er avril, il y a eu donc cette opération israélienne à Damas contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran, contre des responsables des gardes de la révolution iranien. Et le 13 avril, la riposte de l'Iran qui a franchi un seuil, c'est-à-dire c'était la première fois que l'Iran attaquait directement l'État d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, je pense, et très révélateur de ce qui se passe après, c'est comment finalement Israël a réussi à repousser cette attaque, c'est-à-dire parce qu'il y a eu plus de 300 drones, missiles, etc., qui ont été tirés sur le territoire d'Israël et qui ont pratiquement tous été repoussés. Et il n'y a eu qu'une petite victime, une petite fille qui a été blessée. Voilà, donc c'est presque miraculeux. En réalité, ce n'est pas un miracle, c'est que tout ça a été très bien préparé. Quand on décortique la manière dont cette opération a été préparée, c'est intéressant parce qu'on voit les éléments de cette diplomatie qui est en train de se nouer. C'est-à-dire que, en fait, dans la foulée des accords d'Abraham, donc normalisation des relations d'Israël avec certains pays du Golfe, impulsés par Donald Trump en 2020, le Pentagone a réorganisé son aide dans la région, la coopération, la défense de la région, et a impliqué certains États arabes dans la coopération sur la défense aérienne d'Israël. Et ça, on a eu la première application, en fait, au moment du 13 avril, c'est-à-dire qu'on a eu la Jordanie
qui
a participé à la défense aérienne, et certains pays du Golfe et l'Arabie Saoudite, les Émirats, qui ne l'ont pas avoué publiquement, mais qui en réalité ont partagé leurs renseignements avec les Américains pour aider à la défense d'Israël.
Mais est-ce que ça veut dire que finalement il y a une forme de clarification des alliances et des camps qui s'opposent?
Alors ce que ça veut dire, je pense surtout, c'est que tout ça est une sorte de coalition anti-Iran, hein, c'est-à-dire ces pays du Golfe et ces pays arabes sunnites décident de s'allier au risque d'être très critiqués, y compris par leur population, parce qu'ils participent à la défense d'Israël, mais sont prêts à participer à cette défense commune pour faire face à l'Iran, à la menace iranienne. Mais après, est-ce que cela peut déboucher sur une vraie alliance diplomatique? C'est le sens de la tribune d'Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël dans le Monde cette semaine. Il dit finalement la peur des Perses a pesé plus lourd que la haine des Juifs pour ces pays du Golfe. Hein. C'est-à-dire que finalement, bon, ils ont... Mais, et lui, il espère, il émet le souhait que cette alliance militaire se transforme en coalition diplomatique. Et là, je crois que c'est un souhait un peu trop optimiste, à mon avis, parce que le problème, on a réussi à reculer du bord du précipice, du bord du gouffre, mais les problèmes de fond ne sont absolument pas résolus. Et en effet, Israël peut, Netanyahou peut se dire, pour l'instant, je sors de mon isolement, Israël sort de son isolement, a réussi à...
Donc je préserve ce capital sympathie.
Voilà, mais en réalité, il ne va pas le garder longtemps, parce qu'il ne renonce pas à l'opération à Rafah, dans le sud de Gaza, et le problème de Gaza reste entier, même si on en a moins parlé ces derniers jours.
Vous évoquiez la diplomatie, Sylvie Kaufmann, Corinne Lepage, on a vu justement une activation d'un grand nombre de chancelleries qui disaient toutes à peu près la même chose, hein, que ce soit côté américain, l'ONU, le G7, la Russie, la Chine, la Turquie, les pays arabes, j'en oublie sans doute, l'Union européenne évidemment, disant attention, il faut tout faire pour aller vers une désescalade. Est-ce que ça a démontré aussi le fait qu'il y a peut-être une puissance de la diplomatie qui a permis... Pour l'instant, on verra bien ce qui se passe par la suite, mais en tout cas pour l'instant, d'apaiser un petit peu les tensions au Moyen-Orient.
Alors oui, visiblement, enfin moi je suis beaucoup moins spécialiste que les deux personnes qui viennent de s'exprimer, donc je serai humble et modeste dans mon expression. Mais enfin, je voudrais dire deux choses. Je trouve que la manière dont vous avez posé votre question pour l'émission de ce matin est très bienvenue.
Ah, merci.
Elle est très bienvenue parce que, effectivement, les deux ont deux problèmes majeurs. Qui, me semble-t-il, les bride. Israël, parce qu'il a un problème d'existence vitale. Israël, c'est quand même le seul pays au monde dont un certain nombre d'États disent qu'il faut le rayer de la carte. Bon, il n'y en a pas d'autres à ma connaissance. Et donc, il y a cette vision de long terme, d'où le problème nucléaire qui était évoqué par Thierry Gomard tout à l'heure.
Thomas Gomard,
excusez-moi. Parce qu'effectivement, les Iraniens ne sont jamais cachés de l'envie qu'ils avaient de balancer une bombe nucléaire sur Israël s'ils en avaient la possibilité. Donc, il y a cette question du long terme. Mais les Iraniens, ils ont quand même un problème interne qui n'est pas mineur. Moi, j'ai été assez frappée de voir un peu partout dans le monde des manifestations avec des drapeaux iraniens d'opposition et israéliens en disant « on est ensemble ». Et donc, la question que je me pose, mais je ne suis pas du tout une connaisseuse de ce qui se passe en Iran, mais ce que j'ai vu, c'est que la police des mœurs s'est renforcée au cours des dernières semaines de manière très sensible, que les femmes non voilées sont de nouveau poursuivies, lapidées et tout le tremblement, voire mises en prison, voire tuées. Et que donc la répression s'accroît, et quand la répression s'accroît, ça veut dire qu'en réalité, la pression s'accroît aussi de l'autre côté. Et donc, aller trop loin pour l'Iran lui pose peut-être des problèmes internes que nous mesurons mal, nous, ici, mais à mon sens, qui peuvent exister. D'où l'intérêt qu'ont les deux à montrer leurs muscles, parce que Israël n'existe que par la dissuasion, les Iraniens parce qu'ils veulent être la puissance régionale montante, mais à ne pas dépasser un certain seuil parce qu'ils sont exposés à une question vitale pour les Israéliens. Je ne parle pas de la situation de M. Netanyahou personnelle, mais elle est aussi à prendre en considération. Et peut-être aussi une situation vitale pour les Mollahs. Ça, je ne suis pas en mesure de le mesurer, mais je pense que ce n'est pas tout à fait impossible. D'où un article très intéressant d'Harari dans le Haaretz d'aujourd'hui, que j'ai lu juste avant de venir, où il dit, mais de grâce, quoi, il y a une possibilité de créer quelque chose, il est sur la même position que Barnaby, en fait, de créer quelque chose sur le moyen long terme, je vous en prie.
Ne gâchons pas cette chance,
et je pense qu'effectivement, sur le moyen long terme, c'est une chance unique d'Israël d'assurer sa survie, parce que c'est quand même ça le but du jeu. Enfin, me semble-t-il.
Puisque vous avez eu la gentillesse, Corinne Lepage, de souligner la qualité de la question que nous posons pour ce débat, que je rappelle, Israël-Iran, un conflit perdant-perdant, je la soumets directement, cette question à Brice Couturier. Est-ce que tout le monde aurait à perdre à l'extension du conflit entre Israël et l'Iran ?
J'ai du mal à répondre à cette question parce que je connais moins bien le sujet que Thomas Gomard et Sylvie Kaufmann, moi aussi. Mais par contre, je voudrais répondre à la question que vous posiez précédemment, qui est, y a-t-il un risque d'embrasement et de montée aux extrêmes entre l'Iran et Israël ? Il ne faut pas oublier, comme le rappelait à l'instant Corinne Lepage, que les dirigeants de la République islamique d'Iran n'ont jamais caché, ils l'affirment de manière régulière, que leur but, c'est de détruire Israël à jamais. L'expression qu'on emploie en Iran, détruire Israël à jamais. Et évidemment, la poursuite de l'arme atomique de la part de ces dirigeants islamistes a un sens très précis qui est de l'utiliser pour détruire Israël qui ne devrait pas exister au Moyen-Orient parce que les Juifs n'ont pas le droit d'avoir un État à eux. Alors maintenant, on l'a souligné à plusieurs reprises, il y a une nouveauté, c'est que le conflit est monté d'un cran avec le tir de 170 drones, 120 missiles balistiques et 30 missiles de croisière par l'Iran sur le sol même d'Israël. Jusqu'à présent, l'Iran s'était contenté d'installer autour d'Israël ce qu'ils appellent une ceinture de feu. Cette ceinture de feu compte comment c'est le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, mais également des milices pro-chiites et pro-iraniennes en Irak et en Syrie, ainsi que les Houthis. Jusqu'à présent, les Iraniens se contentaient donc de travailler par proxy, si vous voulez, pour détruire Israël, commencer à détruire Israël, et ça marchait moins bien. Ils se sont servis du prétexte, effectivement, du bombardement israélien sur une structure diplomatique abritant des dirigeants des gardiens de la Révolution à Damas, pour répliquer sur le sol israélien, ce qui enfreint un tabou. Car il y avait un modus vivendi entre les deux pays qui était qu'on ne s'attaquait pas au territoire de l'autre. En le faisant, les Iraniens ont effectivement déclenché quelque chose de dangereux. Il faut savoir que Biden avait demandé à Netanyahou de considérer que l'échec de cette offensive iranienne sur le territoire israélien, auquel les États-Unis ont beaucoup contribué, mais nous aussi, Français, Britanniques, comme vous l'avez dit plus précédemment, Biden avait demandé à Netanyahou de s'en tenir là et d'estimer que puisque aucun de ces missiles balistiques n'avait réellement causé de dommages sérieux en Israël, il fallait ne pas répliquer. Les Israéliens...
Qui a priori a été fait, Antoine. Alors il y a eu ces explosions dans le centre de l'heure, mais qui ne sont même pas revendiquée par les Israéliens.
Ah oui, mais enfin, les Israéliens, de leur côté, considèrent que ne pas répliquer à cette attaque iranienne sur leur sol serait interprété dans la région par leurs ennemis comme la démonstration que leur capacité de résilience, que leur capacité de représailles serait émoussée. Alors qu'ils ne sont toujours pas venus, soulignons-le, à bout du Hamas à Gaza. C'est pourquoi le gouvernement de crise israélien a opté pour une riposte limitée et mesurée. Comme on l'a dit à Washington, au Pentagone, je cite, il s'agit d'un « signal and not a strike », un signal, pas d'une frappe. Elliot Abrams, dans Foreign Affairs, s'écrit « La question qui se posait aux dirigeants israéliens était à quel niveau fixer la riposte à l'Iran de manière à maintenir la crédibilité de la défense israélienne sans entrer dans un processus d'escalade conduisant à la guerre ouverte. » Alors effectivement, ils se sont contentés de détruire un système de radar qui protégeait l'installation nucléaire de Natanz dans la région d'Ispahan, démontrant ainsi aux dirigeants de la République islamique qu'ils sont capables de percer leur défense antiaérienne et que leurs installations nucléaires sont donc vulnérables à une frappe israélienne si jamais Israël décidait d'une telle frappe. Je cite cette fois un proche de Netanyahou qui exprime sa pensée, c'est Nathan Eshel. Il dit « Personne ne veut la guerre avec l'Iran en ce moment. Nous leur avons prouvé que nous pouvions nous infiltrer et frapper leur territoire, pas eux. Ce type de message est plus efficace que les grands discours. Nous avons actuellement mieux à faire, que ce soit à Gaza ou au Liban. » Donc en gros, maintenant, la balle est dans le camp de l'Iran. Est-ce qu'elle va aller monter d'un cran dans l'escalade ou est-ce qu'elle va s'en tenir là, dans la mesure où tout le monde est content que ça s'arrête là, en gros?
Voilà, ne pas vouloir la guerre, ce qui semble être quand même aujourd'hui l'idée la plus largement admise, ne veut pas dire que la guerre n'aura pas lieu. On voit à quel point on est quand même sur une ligne de crête, Thomas Gomard. Est-ce que, par exemple, alors lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé cette semaine d'infliger de nouvelles sanctions à l'Iran, alors notamment à l'égard de l'industrie des drones, l'industrie automobile également, et puis sidérurgique, est-ce que ça consiste à rester là aussi sur une ligne de crête, c'est-à-dire obliger, une forme d'obligation à sanctionner sans, là encore, aller trop loin?
Je pense qu'il y a, deux éléments conjoncturels qui ont été évoqués qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier, c'est la situation de Netanyahou et le deuxième, ce sont les élections américaines, pour vous répondre directement. La situation de Netanyahou, politique, il y a son enlisement à Gaza, ce qui se passe permet d'une certaine manière de voiler cet enlisement et permet aussi de déplacer la réprobation unanime qui était celle du comportement de Tsahal à Gaza en montrant Israël à nouveau agressé. Bon. Et ça, il le fait effectivement de manière assez habile, en dépit de son impopularité politique, de donner l'impression qu'il y a peut-être une coalition qui pourrait être créée, masquant ce que je viens de mentionner précédemment. Mais ça reste très fragile, en fait. Et ça montre aussi à quel point il peut aller dans un sens ou dans un autre. Et à mon avis, avec un soutien de la part des... qui restera très fort de la part des États-Unis, peut-être un peu moins fort de la part des autres, des monarchies du Golfe, compte tenu de leur opinion, ou des Européens. Le deuxième élément, évidemment, c'est la situation avec tout le monde, l'anticipation de l'élection américaine. Pourquoi ? Parce que il y a une autre décision très importante qui a été prise récemment, c'est le soutien américain apporté à l'Ukraine, avec l'aide financière enfin débloquée. Et donc, on a des États-Unis qui recentrent leur soutien à Israël de manière très forte et également à l'Ukraine en dépit de toutes les hésitations qu'on a eues depuis janvier 2024. Et ça, c'est très problématique à la fois pour Téhéran et pour Moscou, parce que ça montre que la dynamique qui était celle de Moscou en Ukraine est probablement à reconsidérer. Alors on va voir, les effets ne se produisent pas évidemment du jour au lendemain en la matière, et également le fait d'apporter ce soutien si fort à Israël et rentre dans le calcul iranien.
Mais pardonnez-moi, Thomas Gomard, c'est-à-dire en quoi l'aide donc décidée hier, dans la nuit au Congrès américain, de cette fameuse aide de 61 milliards de dollars à l'Ukraine peut avoir des conséquences sur l'attitude du gouvernement iranien?
Ça précise la position américaine et ça fait que l'exploitation que tout le monde essaie de faire des mois qui précèdent l'élection américaine et la perspective éventuelle de revoir devenir Donald Trump est d'une certaine manière un peu plus balisée, un peu plus bordée. C'est-à-dire que on avait quand même l'impression que Donald Trump était déjà élu en janvier 2024 avec l'arrêt du soutien américain à l'Ukraine. Ça réouvre au fond un soutien très fort autant sur l'Iran, le soutien de Trump à Israël, à mon avis, sera évidemment très fort. Mais ça, ce que j'essaie de dire, c'est que ça remet les États-Unis dans une position centrale pour les mois qui nous séparent de l'élection américaine. C'est-à-dire que ces mois, à mon avis, ont cherché à être exploités par un certain nombre d'acteurs, dont l'Iran, dont la Russie, probablement aussi la Chine, et que la décision de hier de débloquer, à mon avis, d'une certaine manière, reborde un peu les choses d'ici l'élection américaine de novembre prochain.
Sylvie Kaufmann, c'est important. Oui. Alors, on sort un peu du sujet sans en sortir véritablement, comme vient nous l'expliquer Thomas Gomard, mais cette décision donc de la Chambre des représentants aux États-Unis de voter cette aide, qui doit encore être validée par le Sénat américain, mais a priori, ça sera une formalité puisqu'il y a une majorité démocrate.
Non, mais on ne sort pas du sujet parce que rappelez-moi votre question qui était si bonne là au début.
Décidément, c'est ma fête aujourd'hui.
Perdant, hein.
Conflit perdant-perdant.
Voilà. Et en fait, oui, c'est très perdant-perdant. Mais là, je suis d'accord avec Thomas, on a peut-être des États-Unis qui sortent par le haut provisoirement de cette crise. Parce que finalement, Biden, son obsession depuis le 7 octobre, elle était double. C'était d'une part assurer la défense d'Israël, puisqu'il y est totalement engagé. C'est l'engagement des États-Unis, mais c'est aussi quelque chose d'assez personnel pour lui, Biden. Et l'autre obsession, c'était éviter l'embrasement. Donc je pense que par son intervention, il a quand même téléphoné plusieurs fois à Netanyahou. La presse israélienne et américaine dit que, en fait, Netanyahou voulait riposter en Iran par quelque chose de plus grande envergure et que c'est Biden qui l'a convaincu de limiter les dégâts et d'avoir une réponse plus calibrée. Donc, on voit en effet les États-Unis se ressaisir et reprendre leur rôle un petit peu de leader dans ce processus. Donc, de ce côté-là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas complètement perdant dans l'histoire, c'est peut-être les États-Unis, mais c'est, je suis d'accord, tout ça est très fragile et on voit bien à quel point toutes ces alliances et ces jeux sont internationaux, à la fois au niveau régional et au niveau international, sont en plein mouvement et rien n'est encore figé. Et puis on a vu aussi que dans ce processus, dans ces dernières semaines, l'Iran et Israël n'ont pas frappé très fort, mais en même temps ont montré leur capacité. C'est-à-dire que en calibrant leur réponse, ils montrent aussi que s'ils veulent aller plus fort, les deux, et aller plus loin, ils peuvent le faire. Donc on a une situation quand même extrêmement tendue. Et sur l'Ukraine, oui, je pense que ce qui s'est passé cette nuit, ce vote, enfin du Congrès, mais est extrêmement positif parce que l'Ukraine va recevoir cette aide dont elle a un besoin absolument vital. C'est vrai que Zelensky n'arrêtait pas d'appeler au secours ces derniers temps, et parce qu'on voit bien à quel point ils sont en mauvaise posture et la Russie essayait d'en profiter. Je pense qu'on avait atteint un seuil très dangereux en Ukraine, et donc il faut espérer que maintenant l'aide matérielle en armes, puisque c'est de ça qu'ils ont besoin, va arriver dans les temps. Mais si vous voulez, en même temps, là, les États-Unis, le temps qu'ils ont mis et la manière, je veux dire, les circonvolutions et la complexité de ce processus juridique et politique au Congrès pour arriver à voter cette aide, je pense, a quand même été très préjudiciable à leur crédibilité. Ça fait quand même 7 mois qu'on attendait ce vote et c'est le processus, la dynamique politique aux États-Unis n'en ressort pas grandi du tout.
Est-ce qu'on peut se dire que mieux vaut tard que jamais malgré tout, Brice Couturier ?
Ah certes, pendant ce temps-là, les Ukrainiens meurent sur les champs de bataille pendant que les congressistes américains débattent. Mais j'aurais juste revenir un court moment sur l'Iran et Israël. Il faut savoir quand même que la disproportion des forces militaires entre les deux pays est largement en faveur d'Israël. L'Iran est sorti très habile, les armées iraniennes sont sorties très abîmées de leur guerre avec l'Irak, qui a duré quand même une dizaine d'années, qui a été très coûteuse. Il faut savoir qu'ils utilisent des vieux avions américains qui datent de l'époque du Shah d'Iran, comme le F-4 et le F-5 américain, tandis que Israël est équipé du F-35 furtif, l'appareil de combat le plus moderne du moment, qui est évidemment américain. Alors évidemment, en face, vous avez les Iraniens ont montré, eux, qu'ils avaient des missiles balistiques sophistiqués, comme le Kaibar, d'une portée de 2000 km, et surtout les drones de combat, qui sont l'instrument, on le voit bien en Ukraine, le plus utile aujourd'hui sur le champ de bataille, comme le Karman 22, d'une portée de 2000 km, qui est équipé de missiles de croisière. Mais enfin, les Iraniens savent très bien qu'en l'état actuel des choses, tant qu'ils, certes, ils sont une puissance du seuil atomique, mais ils n'ont pas encore la bombe atomique, pour l'instant, s'ils déclenchaient une guerre avec Israël, ça serait pas perdant-perdant, ça serait gagnant-perdant, car Israël est beaucoup plus fort. Et comme le dit ce spécialiste dont je parlais tout à l'heure, Elliot Abrams, ce qui fait qu'Israël s'est fait des amis dans le monde arabe ces derniers temps, c'est pas par sa retenue, c'est par sa puissance.